Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Et en tout, faire des projets au Québec.
C'est l'enfer.
Oh my
Mais,
God!
Puis je l'écoutais, quand c'est des questions environnementales. Et tu sais, tantôt, on parlait du train, oui. Les terres agricoles. C'est important, puis c'est vrai à un moment donné que, je veux dire,
oui,
ça prend des voix pour les défendre.
Moi aussi.
Mais quand c'est du niaisage,
d'empilade,
de réglementation, puis qu'il n'y a aucun objectif positif avec ça, là, c'est juste de la mauvaise gestion, c'est tellement
c'est
choquant.
Oui, puis même quand c'est des questions environnementales ou de terres agricoles ou ainsi de suite, moi, je veux maintenant qu'on s'assoie ensemble et qu'on trouve des pistes de solutions constructives. Peut-être j'en demande trop, mais je suis tanné autant d'un côté de l'autre. Là.
Ben,
oui.
T'sais,
économie,
quand ça passe chez vous,
scrape,
oui, mais tu sais, Jeff, quand ça passe chez vous, là, mm-hmm. Tu sais, mettons le tramway.
Ouais.
Je suis d'accord avec le tramway, j'ai pas de problème. Mais c'est sûr que si c'était mon arbre sur mon terrain...
Je sais.
Tu sais, à un moment donné, il faut quand même prendre en considération... Il faut écouter les gens. Mais c'est pas parce qu'une personne est opposée... Tu sais, l'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité. C'est pas 100% de gens contents
en
à un
effet.
Moment donné, là, tu sais.
Ouais, puis c'est la fameuse expression, pour faire une omelette, il faut casser des œufs.
Oui, puis honnêtement, quand je m'en viens ici le matin, maintenant que je passe de... Moi, j'habite à Sillery, puis je m'en vais dans le Bourgneuf le matin, puis que faut que je passe à travers le Vietnam, là, c'est-à-dire le boulevard Laurier, présentement. Et... Puis là, le matin, tu sais, je monte la côte du Verger, je tourne sur Saint-Louis, puis je vois que Saint-Louis est tout strippé. Là, je me dis, ah oh, non, ça veut dire qu'en plus de Laurier...
C'est ça.
Saint-Louis va avoir des surfaceuses qui vont venir asphalter bientôt, ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça me prend deux fois le temps. Donc, moi aussi, là, l'omelette, ça me casse les œufs, mais je sais que c'est pour avoir des meilleures routes, plus de mobilité, alors je ravale.
Et voilà, je te comprends. Hey, fête au village à la CAQ ce week-end!
Enfin!
On a annoncé une candidate!
Hey, sérieusement, les attentes étaient comme tellement élevées. C'est tellement élevé comme attente! Que je me disais, mon Dieu, cette candidate-là a beaucoup de pression.
Oui.
Parce que dans les dernières semaines, qu'est-ce qu'on avait? Des gens qui s'en vont.
Ouais.
Des ministres qui s'en vont. Une trentaine d'élus de la CAQ qui ont annoncé qu'ils quittaient,
ouais,
dont la semaine passée des ténors.
Ben oui, alors que la date limite
imposée
par le
ben
parti
oui.
était finie, puis Jean Boulay puis Mathieu Lacombe, ils ont dit, oh, y'a le parti, oh, y'a la date limite,
ouais.
On sait que notre camp.
Puis d'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'au caucus, il y a quand même des gens qui sont un peu mécontents par rapport à tout ça, parce que c'était supposé d'être une condition pour être dans le conseil des ministres, de s'engager à se représenter pour la prochaine campagne.
T'as entièrement raison, et d'ailleurs, je trouvais ça quand même assez particulier tout à l'heure que Christine Fréchette et Mathieu Lacombe soient tous au rire pour une annonce sur la culture. Ensemble, main dans la main, un côté de l'autre.
Disons qu'il y a certaines tensions. Par contre, M. Lacombe et M. Boulay, la semaine passée, se sont fait lancer pas mal de fleurs par leur secteur respectif.
Ouais.
Donc, j'ai l'impression que, oui, le caucus n'est pas content puis qu'il y a un peu de mécontentement, mais qu'ils se disent, bon, ben, je pense que si on se chicanait ouvertement avec ces deux-là, probablement que ce ne serait pas très populaire en ce moment.
Non, puis de toute façon, il faut arrêter cette chicane-là.
Ils n'ont pas besoin de
public.
Ça.
Non, ben, ils ont déjà les beaux-pères, là, les Kerr, les Dubé, les
Ils
Legault,
font toutes des entrevues de fin de mandat.
Les Yuri Chassin. Les Maïté Blanchette Vizina qui est rendu dans le PCQ. Ils ont déjà toute cette gang-là pour faire la job sale en public. Ils n'ont pas besoin de la faire entre eux autres.
De plus. Comment tu la trouves, la nouvelle candidate de la CAQ?
Je la trouve déjà très politicienne, pas nécessairement très informée. Je te fais entendre un extrait de notre entrevue ce matin dans Marceau le matin concernant la dette et le déficit.
Il faut toujours... On a eu des très bonnes nouvelles dernièrement. Elle a réduit. C'est une bonne surprise.
Ça, c'est le déficit. C'est le déficit qui a réduit, c'est pas la dette du Québec.
Ça, c'est le déficit. D'accord.
Oui.
Bon.
Voilà.
Vous m'avez attrapé. Ça, c'est la dette.
Oui, c'est ça la question. C'était qu'est-ce que vous pensez de la dette du Québec? Hey, on a eu des bonnes nouvelles. Ça a diminué, mais ça, c'est le déficit.
Ouais.
Faire la dette, la dette.
J'ai comme une petite douleur. J'ai une douleur au ventre en écoutant ça.
C'est ça. Il me semble que dans l'ABC de je me présente en politique, c'est quoi une dette? C'est quoi un déficit?
Je sais pas. Petit crash course.
C'est moi qui est trop exigeant.
Ben, maintenant que Jeff est un bourreau à politicien, on lui a donné ce nom-là.
Oui, apparemment que je pose toujours la question guillotine.
La question qui tue.
Ouais,
je vais redire ce que Yannick a dit ce matin. C'est peut-être juste le langage.
Ah, oh, la barrière
la langue,
de la langue.
Ouais, c'est pas sa langue première.
Non.
Mais
déficit.
Okay, là, je vais aller un peu plus loin. Puis je vais probablement contribuer à excuser un peu Mme Goya, la candidate de la CAQ dans Brome-Missisquoi. Mais on n'a pas une excellente éducation financière au Québec, hein, en passant.
Je le sais.
OK, donc
ça, pour l'améliorer.
La différence entre économie et finance, la différence entre dette et déficit, c'est quoi le PIB? C'est quoi la dette en pourcentage de PIB? Honnêtement, là, c'est très, très mal compris. Puis tu sais, j'ai travaillé en politique pendant une dizaine d'années et j'avais des députés qui ne comprenait pas la différence entre une dépense et un investissement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne savais pas comment on faisait un budget du Québec.
Continuez d'interagir au 418-971-1021. Il y a un auditeur ou une auditrice qui nous mentionne, c'est un standard, la PM ne connaît pas la dette. Fait que c'est un standard de la CAQ.
C'est l'exemple bien d'en haut.
Là, on avait beaucoup de réponses de politiciennes déjà. Moi, ça me décevait.
C'est une politicienne maintenant?
Je me disais, crème, nouvelle, elle va amener un sang nouveau. Alors, je lui ai posé la question qui tue pour un caquiste.
La question de Jeff.
Allez-vous voter oui ou non s'il y a un référendum? Parce que ça, à la CAQ, là, que c'est difficile. Voici sa réponse.
Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de référendum.
Et voilà,
c'est la ligne.
Écoutez, pour avoir vécu à l'étranger, pour étant d'origine d'ailleurs, je sais que le Québec a tellement de choses à offrir et à s'offrir en étant stable et en ayant une Christine Fréchette qui nous donne cette stabilité et cette propulsion vers l'avenir. Avoir un référendum maintenant, je préfère... puis j'aimais bien ce que Mme Fréchette a dit, que les autobus restent en gare.
Ben, écoute, je trouve que c'est conforme à ce que les autres caquistes disent. Là, elle avait bien mémorisé la question-réponse.
Mais c'est une question oui ou non. Peux-tu répondre?
Ouais, mais moi, je suis pas d'accord.
Non, comment ça?
Parce que c'est oui ou non s'il y a un référendum. Mais la position de la CAQ, c'est de dire... On a des gens, nous, dans nos rangs, qui voteraient oui ou qui voteraient non, mais c'est pas ça la question. On veut pas de référendum. Honnêtement, après deux mandats de la CAQ, je pense que ce tabou-là est assez brisé, là. C'est sûr que c'est moins confortable, mais la question n'est plus autant binaire qu'elle l'a déjà été. Et même, tu sais, je vais aller encore plus dans le granulaire. Moi, je suis souverainiste. Je voterais oui s'il y avait un référendum. Est-ce que c'est ma priorité de tous les jours?
Non.
Est-ce que, mettons que tu me dis, ah, ben là, il faudrait réparer des hôpitaux ou faire un référendum? Tu comprends? À un moment donné, c'est plus nuancé. Moi, je vois pas ça comme noir ou blanc. Fait que ça, j'y pardonne.
OK, parfait. Pardonnez.
Puis en même
moi
temps,
aussi, je suis souverainiste, je pense.
À certains
demain,
degrés.
Il va être fédéraliste. Par contre.
En revenant de Toronto, de tes vacances à Toronto.
En revenant de mes vacances à Toronto. Et que le Canada va être le meilleur pays au monde.
Mais tu sais, en même temps, on dit, peux-tu répondre? Mais quand un élu.
Ah, ça fait scandale.
Ça fait scandale, puis on fait des titres avec ça pendant une semaine au lieu de se concentrer sur les vrais enjeux.
Tu sais, des fois, la langue de bois, là, c'est aussi nous qui contribuons à la créer. C'est que si à chaque fois que quelqu'un sort un petit peu du rang ou parle clairement, on le plante.
T'as tellement raison là-dessus.
On se regarde dans le miroir.
Ah, je t'approuve à 100%. Bon, un autre candidat qui m'a déçu, c'est Dominique Dumas qui se présente dans Chute de la Chaudière pour le Parti conservateur du Québec. On l'a reçu dans Marceau le matin, ce matin, vers 8h40. Moi, ce qui m'a déçu de Dominique Dumas, c'est pas tant ses idées, puis où il se positionne dans les idées conservatrices, c'est bien correct, c'est sa transparence. C'est au niveau de la transparence. Parce qu'il a été dans les médias pendant ça doit faire une dizaine d'années qu'il est dans les médias, puis c'est toujours ça, hey, pourquoi qu'ils nous disent pas ça? Pourquoi le politicien? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et là, j'ai posé la question à Dominique Dumas. OK, pourquoi si je vais sur ton compte X, il n'y a plus de pause? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton compte X? Y a-tu quelqu'un qui est venu justement prendre possession de ton compte
pirater.
Et tout effacer, le pirater? Voici sa réponse. Parfait. Mais es-tu allé trop loin si t'es supprimé? Parce que toi, moi, mon historique, honnêtement, je le supprimerai jamais. Il n'y a pas rien de dérangeant.
Non, je l'ai toujours gardé, puis je ne supprimais pas des tweets parce qu'on pouvait me ramener ça. T'sais, on pouvait me le ramener en tant qu'animateur de radio aussi. Mm-hmm. Mais dans une campagne électorale, là, on va avoir une campagne. T'sais, si je t'ai élu demain matin, tout serait resté là, puis si on en parle, c'est tout. Mais dans une campagne électorale où tu as un court laps de temps, où là, ça commence à faire une distraction parce que il y a 8 ans, tu as dit telle affaire, puis là, tu essaies de te rappeler, c'est dans quel contexte, c'est pourquoi j'ai dit ça. Fait, regarde, aussi bien tassé ça, puis si on m'en ramène, regarde, on en jasera, pas de problème.
Moi, c'est drôle, j'effacerai jamais mon historique parce que.
Est-ce que ça veut dire que tu assumes ce que tu dis?
Oui, c'est ça, parce que moi, j'assume ce que je dis. T'sais, je veux dire, que ça soit un poste plus politique, que ce soit un poste, moi, j'aime le sport plus sportif, ou que ce soit un poste sur ma vie. Parce que je fais beaucoup de pauses sur ma vie, le Good Vibes Only, ils vont toujours rester là, même si je me présente en politique, parce que c'est moi, c'est Jean-François Fortin, j'ai rien Nakaché.
Ben, c'est ça. Puis tu as une approche respectueuse.
Exactement. Ce ça que se je pourrait-tu crois... que ça a fait du Radio X sur la plateforme X, c'est-à-dire boulier un peu?
Ben, c'est ça. C'est que l'usage que tu fais de tes médias sociaux, tu récoltes ce que tu sèmes à un moment donné. Il y a une différence entre, tu sais, mettons, je sais pas moi, Halloween 2008, tu avais un déguisement de mauvais goût, tu effaces la photo parce que tu dis, mon Dieu, ça a mal vieilli. OK. Mais quand tu es obligé d'effacer beaucoup de tweets, c'est que d'après moi, puis pas, tu sais, il dit quelque chose que j'ai dit il y a 8 ans, je pense que c'est pas juste il y a 8 ans.
Ben, c'est ça.
Tu sais, d'attaquer beaucoup les gens sur les plateformes de médias sociaux, d'avoir des propos, des fois, qui dépassent un petit peu le respect. Ben, quand tu es obligé de les effacer pour aller en politique, ça en dit long sur ton approche.
Ben, exactement. Tu n'es pas nécessairement un joueur d'équipe.
Ben, puis il y a le contenu, puis il y a le contenant. Le contenu. Moi, si tu effaces des choses que tu as dit par le passé, là, j'ai vraiment un énorme enjeu parce que je me dis, là, c'est vraiment sur le fond des choses, à moins que tu aies changé d'idée, alors explique-le.
Ben, exactement. Mais
après ça, il y a le contenant. Si les gens, peu importe leur positionnement politique, étaient respectueux des autres et dépassaient pas les limites juste pour provoquer, parce qu'il y a beaucoup de provocations aussi là-dedans chez certaines personnes sur les plateformes de médias sociaux.
Ben, c'est une façon d'exister.
Qui est une façon d'exister,
et
mais qu'après devient
boulet. Et
on est
dans notre chambre d'écho. Mais là, on est dans notre chambre d'écho, on est content, nos petits partisans sont en arrière de nous. Go, 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 go. Solidarité, liberté, on sauve
des
arbres.
T'as des gains à court
terme.
Mais à long terme, des fois, c'est
moins
drôle.
Mais à long terme,
drôle.
Oups! T-418-971-1029, vous en pensez quoi? Faites-vous confiance à un politicien qui efface son historique sur ces médias sociaux parce que, ouais, j'aurais pas le goût qu'on jase de qu'est-ce... Moi, ça me donne pas confiance, pantoute. Moi, je me dis, ce gars-là est prêt à tout pour être un politicien. J'en veux pas les politiciens
de
moi.
Il a raison quand il dit, c'est parce que ça va créer une distraction, il faut que je m'explique. En campagne électorale, ouais, tout va vite.
Oui.
Mais, justement, si tu te comportes de façon correcte en tout temps, t'as pas cette problématique-là de devoir expliquer des tweets que t'as fait à certains moments pour avoir de l'attention à ce moment-là. Parce que c'est vrai, en campagne électorale, là, tu peux faire perdre une journée à ton chef. Ça, c'est la pire affaire, OK? T'as un candidat quelque part, là, les adversaires politiques vont fouiller les comptes des médias sociaux des autres. Mm-hmm. Puis là, ils vont sortir des affaires, puis là, ton chef est pogné pour répondre à ça. Pendant qu'il répond à ça, ben, il n'est pas capable de dire c'est quoi sa proposition en santé, en éducation, en économie, en tourisme, etc. Puis je pense que c'est ça qu'il essaie d'éviter. Je le comprends. C'est juste que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est toutes les années où tu as décidé d'attaquer d'autres personnes sur les plateformes de médias sociaux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Si tu avais débattu de manière respectueuse, tu n'aurais pas ce problème-là.
Peut-être je vais en faire une... T'sais, je vais faire une affirmation fictive, mais supposons que moi, un jour, je me présente pour le PQ. Là, on me posait la question, avez-vous toujours été souverainiste? Non. On va peut-être me sortir 2-3 pauses sur le fait que j'étais fédéraliste, mais je vais dire, ouais, mais voici ma pensée évoluée, puis voici comment elle évolue, puis d'attitude.
Puis, tu sais, de nos jours, tout ce qu'on dit va être dans l'espace public pour toujours, on le sait. Là.
Exactement.
T'sais, nous autres, on est en onde à tous les jours de nos vies. Tu sais, même si tu te présentes en politique dans 10 ans, peut-être des affaires sur lesquelles tu vas changer d'idée.
Ouais.
C'est bien normal, puis moi, je pense que les gens vont s'habituer à ça. On va être moins dans le dogme politique aussi. Les gens sont plus volatiles dans leurs idées. Les partis politiques changent plus rapidement. Mais il faut assumer ce qu'on a déjà dit, mais il faut l'expliquer. Ça se peut que tu aies évolué, là.
Ben oui.
En fait, on évolue, on espère.
Mais on a plusieurs réactions par texto. Est-ce que Farnell, tiens, pour prendre un exemple, a effacé tout? Non, Farnell n'a rien supprimé. Une auditrice qui dit, ouais, j'ai vraiment pas confiance en un politicien comme ça. Une autre qui nous ramène, Alex Boissonneau. Hey, c'est pas pire qu'être reconnu coupable de complot à être député. En effet, j'ai
C'est public.
Oui, puis j'ai pris la parole, moi, lorsqu'Alex Boissonneau s'est présenté. J'ai dit, il aurait dû amorcer sa candidature avec ça.
Ouais.
Hey, vous savez, voici ce qui m'est déjà arrivé dans ma vie. J'ai fait ça, je le regrette. Voici où est-ce que je suis rendu, puis voici pourquoi je considère. Moi là, être politicien, là, je serais sûrement un trop grand livre ouvert. Je serais pas bon, mais je serais ça.
Ben, je pense que c'est la voie à adopter, la transparence. Une que j'avais trouvée bonne quand elle a lancé sa carrière politique, c'était Émilie Foster, qui était la députée caquiste dans Charlevoix, dans le premier mandat de la CAQ. Elle, quand elle a fait sa conférence de presse pour s'annoncer, elle a dit, là, je vous le dis tout de suite, voici mes squelettes dans le placard. Bon, c'était pas des gros squelettes dans le placard, là, mais tu sais, c'était genre, j'ai déjà fumé du pot, j'ai une fois...
Ben oui.
Bon, tu sais, fait tu sors tout ce que t'as fait de gênant. puis tu dis, voilà, vous savez tout maintenant. Maintenant, je veux devenir député, puis je veux représenter les gens de chez nous. Je pense que c'est une bonne manière de faire.
Je suis convaincu que c'est une bonne manière de faire. Autre chose, on a appris dans l'entrevue que Dominique Dumas avait sa carte du Parti conservateur depuis 2014, mais il travaillait dans les médias. Mmh. Alors, je lui ai dit, quelle est la différence entre toi et ces fameux médias traditionnalistes qui sont décriés sur les ondes de Choix Radio X comme étant toujours du même bord?
Des vendus.
Conservateur.
En effet, mais la différence... Puis... C'est pas une position de station, c'est une position personnelle.
Bon, oui, vas-y.
Tu sais, je veux dire, il y a de ça 8 ans, il y a au moins la moitié de la station qui a voté CAQ. Je pense pas me tromper là-dessus. Mais ça a toujours été le même. La station où je travaillais, on a toujours dit ouvertement pour qui on votait, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral. On s'en est jamais caché. On joue carte sur table. Et les gens savaient que j'étais un conservateur. Là. Ça, je l'ai souvent dit. Puis j'ai souvent dit que j'ai voté pour eux autres. En fait, j'ai voté pour deux partis dans ma vie. ADQ, conservateur ou provincial. That's it.
Ça manque de conséquences.
Bien, c'est ça l'affaire. C'est que tu peux pas reprocher aux autres quelque chose que tu fais toi-même.
Exactement.
Mais je vais le défendre un peu.
Vas-y.
Quand c'est dit ouvertement, je pense que c'est mieux que quand on fait semblant d'être neutre.
Je suis full d'accord.
OK? Puis moi, c'est drôle parce que je fais de la chronique politique. Les gens connaissent ma couleur politique.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui me connaît. Puis là, des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Voyons, t'es pas neutre. On dirait que tu prends toujours pour le PQ ou pour la CAQ ou que nanana. » Puis là, je suis comme, mais oui, mais c'est public que j'ai travaillé pour le PQ pour la CAQ.
Ben, c'est ça.
C'est, pour moi, c'est, je le dis ouvertement, mais il y a des gens qui pensent que j'essaie de cacher mes convictions politiques, puis que je me prétends neutre. Pas en tout.
Ben non, exactement.
Donc, à quelque part, est-ce que c'est mieux de dire, moi, j'ai ma carte de tel parti, puis voici pour qui je vote?
Clairement.
Je pense que les gens sont à même de se faire leur propre opinion. Par contre, quand une station de radio ou un média en attaque un autre en disant, vous n'êtes pas neutre, ben, il n'y a personne de neutre. On peut tout se le dire. Puis moi, ce que je trouve bien, c'est quand il y a plusieurs opinions qui cohabitent, puis mm-hmm. que les gens à la maison peuvent se faire leur propre
exactement.
Opinion.
Exactement. Ben là, moi, j'ai un auditeur qui m'a écrit, je pense que c'est vendredi, pour me dire t'es juste un gauchiste. Parce que je riais des parachutés du PCQ.
Il doit y avoir des gens qui traitent de redneck aussi. On est toujours trop
exactement.
À gauche, trop à droite pour quelqu'un.
Mais tu sais, moi, je le dis très, 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 très ouvertement. Je suis un petit peu plus à droite au niveau économique parce que je voudrais donc bien qu'on développe nos ressources naturelles puis qu'on
soit capable de faire un projet
qu'on fasse
comme
des projets
QSL.
Qu'on n'y ait pas comme QSL. Mais d'un autre côté, moi, le filet social au Québec, j'y tiens. C'est notre force.
Ben c'est ça. Puis tu es très cohérent dans tes valeurs, puis tout le monde
exactement.
Le sait. Mais après ça, tu es capable de jaser sur la même station de radio avec des gens qui ont des opinions qui sont différentes. C'est cette richesse-là. Faut pas chercher la neutralité chez une personne.
Non.
Faut la chercher dans l'équilibre des perspectives qu'on met de l'avant sur nos ondes.
T'as entièrement raison.
Pour ceux qui se demandent quel type de tweet Doom Dumas a peut-être publié, je suis allé faire des recherches, puis j'en ai trouvé un, par exemple, qui aurait pu ressortir dans les médias, par exemple, là. Il a republié, dans le fond, un tweet, je vais vous le dire. Le tweet disait « Un drapeau nazi contre la fierté LGBTQ2+, aux États-Unis. Ça me donne envie de pleurer et voir la police protéger ce groupe, ça me donne envie de vomir. » Donc ça, c'était le tweet de Salomé Corbeau. Dominique Dumas a repartagé ce tweet-là le 9 juin 2019 en disant « Si vous ne croyez pas à la liberté d'expression pour des idées qui peuvent vous dégoûter, vous ne croyez pas à la liberté d'expression. » C'est
ouais.
peut-être
défendre
ce genre
un
de
drapeau
tout.
Nazi comme ouais. de la liberté d'expression,
okay,
c'est
sûr
que ça peut
compris.
Être délicat.
Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai que...
C'est peut-être ce genre de tweet
okay.
qui s'est fait.
Ah, parfait.
C'est un bon exemple.
Bon, ben, lecteur de Chute de la Chaudière, vous avez le choix entre Dominique Dumas, Serge Bonin et Martine Biron.
Pour l'instant.
Pour l'instant, je le dis comme ça. Il y a un texto qui est rentré. Dum fait du DM, toujours éviter le vrai sujet, jouer dans sa chambre d'écho et ne pas assumer ses idéologies. Ben, en effet, malheureusement, moi, c'est ce qui me fait décrocher complètement. Je pourrais voter conservateur, puis on va faire un pont avec ceux qui sont populaires et non populaires dans le Journal de Québec. On avait ça aujourd'hui. Mais je peux pas voter pour un gars qui va faire un texto en disant « Ah, la liberté d'expression, le nazisme. » Impossible.
Ouais, c'est ça. C'est là que tu débarques du train. Là.
C'est là que je débarque du train. Économiquement, il me parle, le Parti conservateur. Mais idéologiquement,
c'est
au niveau de mes valeurs...
dans la guerre culturelle. Tout ce qui touche la guerre culturelle, dans les partis conservateurs, c'est pareil, le PCC, là, au palier fédéral, je pense que les Québécois seraient très ouverts à avoir des gouvernements qui sont un petit peu plus minces au niveau des finances.
Clairement.
Qui interviennent moins, qui sont plus rigoureux. Mais quand on commence à s'en prendre aux droits des gays, puis à défendre des drapeaux nazis, là, le monde décroche au Québec.
Bien, en plein ça, fait que c'est pour ça que, puis tu sais, je le dis très ouvertement, je voterai jamais conservateur. à moins que ça change, que ce soit au Québec ou au Canada. Pas parce qu'au
faut
niveau...
jamais dire jamais, Jeff, parce que tu vois l'impact d'un changement de chef
ouais,
sur un parti.
J'ai dit à moins que ça change.
Ah, c'est ça, ben oui.
Oui.
Puis d'ailleurs, Éric Duhaime, moi, je mets quand même une différence entre quelqu'un comme Dominique Dumas ou Éric Duhaime, parce que Éric Duhaime, il passe pas son temps à attaquer les gens sur les médias sociaux, là.
Non, en effet.
Moi, je trouve que depuis qu'il est chef du Parti conservateur, il y a une approche plutôt constructive dans le débat public. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouve qu'il ne s'attaque jamais personnellement aux gens. Il y a eu Alex Boissonneau, évidemment, qui a soulevé des préoccupations, mm-hmm. mais tu les as soulevées toi-même. Je pense que c'était d'intérêt public de se demander, tu sais, en politique, si quelqu'un qui a un passé criminel peut avoir une seconde chance. C'était tout à fait légitime. Mais Éric Duhaime est plutôt constructif dans ses sorties. Hein?
Je suis d'accord.
Je le trouve sur le fond des choses souvent. Je ne suis pas toujours d'accord avec la position, mais dans la manière de faire, je trouve qu'il le fait bien.
Non, je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser aux politiciens les plus détestés, les plus aimés au Québec. Puis je commencerai justement par les plus détestés parce qu'on parle beaucoup des conservateurs. Pierre Poilievre, qui est le politicien le plus détesté, avec une cote par rapport au fait que les gens l'apprécient, les gens ne l'apprécient pas de moins 38.
Exact. Donc, si tu prends sa popularité, moins son impopularité, il est vraiment dans le négatif. Là.
Moins 31 pour Éric Duhaime, moins 14 pour Bernard Drainville, moins 13 pour Maïté Blanchette-Vizina, moins 10 pour Marc Mellor, Geneviève Guilbeault et Sol Zanetti. Là. Donc, tu sais, c'est le top 5, autrement dit. On retrouve trois conservateurs. Moi, ça me surprend pas. Je t'ai dit dernièrement, je trouve que le Québec est plus à gauche au niveau social. Je pense pas me tromper en voyant ces résultats-là.
Mais pourtant, on dit que les politiques de droite, en ce moment, on trouve plus d'écho. T'sais, on parle des infrastructures, on a des déficits, il y a eu du gaspillage. Il y a quand même une ouverture à ça, mais pas au niveau social.
En effet.
Juste avant de continuer, je veux juste vous signaler un breaking news. Il y a présentement une chasse à l'homme qui se déroule dans le quartier Côte-des-Neiges du côté de Montréal. Il y a eu des coups de feu qui ont été entendus par plusieurs témoins. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'au moins un policier a été blessé par balle. Le secteur près de l'autoroute Descarrières à la hauteur de l'avenue de Coutray est bouclé par les policiers. Donc, c'est une vaste opération du service de police de la ville de Montréal et la Sûreté du Québec qui est en assistance sur les lieux également.
On va suivre le tout, évidemment, pour vous. On souhaite qu'arrive rien de grave aux policiers atteints par balle, puis surtout qu'on retrouve l'individu très rapidement et qu'on arrête, justement, cette menace. Pour revenir à ce qu'on parlait dans le caucus avec Antonine Iaccarini, c'est ça, moi, ça me surprend pas parce que à brandir des tweets comme Mathias nous a fait nous a lu de Dominique Dumas, je suis convaincu que ça rejoint à peu près personne au Québec. Donc, ça fait en sorte que la cote de popularité descend.
Le négatif puis les attaques, ça te donne des gains à court terme. Ça te donne de l'attention. Quand t'as pas de notoriété, ça fait jaser. Puis nous, les médias, encore une fois, il faut se regarder dans le miroir. On accroche plus sur le négatif que sur le positif.
Ben, c'est
bien
clair,
souvent.
C'est clair.
Alors, ça fonctionne. Mais à un moment donné, quand tu deviens une force politique plus établie, puis quand tu t'es fait connaître, puis quand tu... Là, à un moment donné, il faut changer de modus operandi. Mm-hmm. Les gens vont vouloir entendre des propositions, puis ils n'aiment pas ça non plus, l'acharnement. Hein. Les électeurs n'aiment pas beaucoup ça quand on est toujours en train d'attaquer les autres, qu'on est dans le personnel. Puis j'ai l'impression que pour Pierre Poilievre et Éric Duhaime, ben, ça peut faire partie de la problématique. Quand on regarde les chiffres d'Éric Duhaime, on voit qu'il polarise beaucoup.
Oui.
Puis disons que j'essaie de voir à court, moyen et long terme pour Éric Duhaime qui regarde ces chiffres-là ce matin. Premièrement, on pourrait jaser de la méthodologie parce qu'il peut y avoir des chiffres faussés. T'sais, les gens qui sont moins connus, ils vont avoir l'air d'être plus aimés, mais dans le fond, sont-ils vraiment plus aimés?
Ben
sont-ils vraiment mieux positionnés? Pas vraiment.
Tu sais, je vais te prendre un exemple. Charles Milliard, 33 % des gens l'aiment, 25 % l'aiment pas, mais 42 % savent pas il est qui.
C'est ça. Donc, est-ce qu'il est vraiment mieux positionné qu'un Éric Duhaime? C'est pas clair. Maintenant, pour Éric Duhaime, là, ce qu'il veut, sa priorité, c'était de devenir une force politique incontournable. Il a réussi. Mm-hmm. Et ce, sans député à l'Assemblée nationale. Bravo. C'était la bonne personne pour le faire. Il le fait. Deuxième étape, c'est de rentrer à l'Assemblée nationale. Avec sa concentration de vote dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, il est capable de le faire. Même s'il n'y a pas besoin que tout le monde l'aime pour faire ça. Mais après, quand il va avoir des députés autour de lui, peut-être des gens qui ont aussi l'étoffe pour devenir chef éventuellement. Là, les conservateurs qui vont avoir un groupe qui est plus grand maintenant vont commencer à se demander, est-ce qu'on a le meilleur chef pour grandir encore?
C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas rester un parti régional toute leur vie. Là.
ils peuvent s'ils veulent.
Mais pas à ça qu'aspire un parti politique.
Mais c'est comme QS. Il va y avoir le même débat que pour QS. Est-ce qu'on est juste un lobby à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui essaie de tirer vers la droite ou vers la gauche?
QS, on décide de rester un lobby en tassant GND.
Exactement. Ils ont dit non, on ne veut pas être plus efficace, puis on ne veut pas gagner, on va avoir raison.
Fait que c'est un petit parti de militantistes qui va nous élire 4, 5, 6, 7 par élection.
Mais est-ce que Éric Duhaime, qui a réussi son pari à date, va réussir celui de devenir vraiment une option de gouvernement?
Avec ce résultat-là,
avec ces
non.
résultats-là. Et je fais le parallèle avec Bernard Drainville. Pendant la course à la chefferie, tu sais, on en a parlé. À chaque fois qu'il y avait des sondages, je te disais, ce qui est très inquiétant pour Bernard Drainville, c'est le nombre de personnes qui ne l'aiment pas.
Ben oui.
Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est rare qu'il se mette à t'aimer. Ça peut arriver, là, mais tu sais, genre, il y a un attentat terroriste, puis là, t'es un héros, là, tu sais, genre d'affaires qui se peut jamais, qui arrive quasiment jamais.
Comme George W. Bush est devenu.
Exact. Ça se peut. Ça peut arriver des fois. Mais pour M. Drainville, je disais, c'est très difficile parce que les gens ont déjà une opinion. Il y en a qui ont une opinion positive, mais beaucoup ont une opinion déjà négative. Mm-hmm. En politique, la courbe de gens qui t'aiment, elle descend. Et la courbe de gens qui t'aiment pas monte.
En effet.
Alors, ton point de départ est important. Madame Fréchette, on regarde maintenant du côté des gens qui sont aimés. Là. Madame Fréchette, 50% des gens l'aiment, 29% des gens l'aiment pas, puis 21% des gens ne la connaissent pas. Elle a non seulement encore un petit potentiel de croissance, mais si j'étais membre de la CAQ et que j'avais voté à la course à la chefferie, je me dis « ouais ». On a fait le bon choix.
Ben oui, clairement. Mark Carney à 60 % avec seulement 12 % des gens qui ne le connaissent pas. Donc,
il est connu.
Oui, ben c'est ça. Puis là, l'histoire se poursuit pour Mark Carney. L'histoire
puis il peut dormir tranquille. Là. Il est en gouvernement majoritaire en plus.
En
et Pierre Poilievre est super impopulaire.
C'est ça.
Il m'en aurait.
La vie est belle. Paul Saint-Pierre Plamondon, 44 % des gens l'aiment. 30 % des gens ne l'aiment pas. 25 % des gens sont indifférents, on ne le connaissent pas. Et ça nous amène à Paul Saint-Pierre Plamondon sur les ondes de
Figaro TV
en France, qui a parlé du régime canadien. On l'écoute.
Il ne faut pas comparer l'Union européenne avec le régime canadien, qui est un régime qui découle d'une conquête militaire dans le cadre duquel...
Vous appelez ça un régime canadien?
Ah, c'est un régime. c'est définitivement un régime dans le sens... où le Canada respecte même pas sa constitution.
Je connais le régime iranien, le régime canadien, ça me paraît.
On est encore de démocratie au Canada?
À ma connaissance, oui.
À ma connaissance, oui. Les gens...
Avec ses défauts.
C'est ça. Les gens ont voté aux dernières élections fédérales, ont élu Mark Carney.
Ben, il me semble. En tout cas,
les gens...
me semble que j'avais voté. Moi,
les gens semblent satisfaits. C'est le politicien le plus populaire au Québec. On a encore une démocratie. OK. On est encore capable de faire changer les choses à coup de manifestations, de contre-pouvoirs. Moi, je trouve en tout cas que c'est sain au Canada, même si j'étais dans la peau d'un souverainiste qui veut me séparer, je reconnaîtrais qu'il y a une démocratie au Canada.
Ben oui, puis on peut la critiquer. Mais là, de dire il n'y a pas de démocratie sous Mark Carney...
C'est un régime.
Là, c'est parce que tu exagères. Là.
Parce
puis là, on n'est pas fin. Parce que honnêtement, le reste de l'entrevue, il y a plein de bouts très intéressants.
Ouais.
On ne vous les passera pas tous. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez. Dans lequel, il fait beaucoup de pédagogie. Il l'explique bien. Mais là, il fallait qu'il... Tu sais, en anglais, on dit « jump the shark ». Ça veut dire exagérer. Là.
Okay.
Puis, tu sais, honnêtement, mettons que tu reformules ça. Au lieu de dire il n'y a pas de démocratie sous le régime Carney, là... de dire on a des enjeux démocratiques importants dans la Fédération canadienne. Premièrement, il y a une constitution qu'on n'a pas signée, nous, puis qui nous empêche de légiférer dans nos champs de compétences. Au Québec, on a des particularités. On veut légiférer sur la laïcité. On a d'ailleurs une vision du vivre ensemble qui ressemble plus à celle de la France que celle de l'Angleterre et du Canada. Je pense que les Français auraient très bien compris. On veut légiférer pour protéger notre langue. On se fait mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement fédéral qui ne comprend rien à nos particularités puis qui nous rentre une constitution dans la gorge qu'on n'a pas signée.
Puis le gouvernement fédéral ne respecte pas toujours les champs de compétences. T'sais, on comprend tout ça, puis
ben
on
oui.
est les premiers à le décrier en ondes. Mais on reste une démocratie. Là,
ben c'est une démocratie. Et d'ailleurs, moi, comme souverainiste, ça, j'ai toujours dit que c'était pas facile parce que le Canada, c'est pas le goulag non plus. Là.
Ben non.
T'sais, moi, j'ai plein de récriminations à faire, mais moi, la raison pour laquelle je pense que le Québec devrait être un pays, c'est juste une question de « on est une nation ». Qui devrait avoir son état. C'est la normalité. Mais là, je me lève pas là, le matin en me disant, mon Dieu, je souffre encore le grand martyr d'être dans le Canada.
Ben non, c'est
il y a
ça.
Des avantages aussi. Tu sais, ça sert à rien, à un moment donné, de pousser l'exagération. Il y a des arguments vrais, rationnels et mesurés qui, à mon avis, font la job.
Oui, dans le grand martyr iranien, tu aurais chanté sans ton hijab puis tu aurais eu 67 coups de fouet.
C'est
ça, un régime.
Pas la même. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que les données de souveraineté chez l'électorat féminin, toujours plus bas que l'appui de la souveraineté chez les hommes. Et d'ailleurs, une des raisons qui est pointée du doigt, c'est que le Canada, c'est pas un mauvais pays pour le droit des femmes.
En effet.
Et qu'il y a même des femmes qui pensent qu'ils seraient mieux protégées sous le Canada que dans un Québec indépendant pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut faire attention à un moment donné aussi, je trouve, de bien définir l'adversaire, mais de manière réaliste et de pointer les bonnes choses. Il y en a plein d'exemples où est-ce que le fédéral nous met des bâtons dans les roues. Pointons ça.
Ben c'est ça.
N'en inventons
pas.
Au
lieu d'exagérer.
C'est qu'en exagérant toujours comme ça, il vient se décrédibiliser. Il paraît d'un complotiste. D'insinuer que le Canada n'est pas une démocratie. Je suis allé chercher l'indice de démocratie pour le fun. Le Canada, on est 13e. On est devant le Royaume-Uni. On est devant la France. On est devant plein de pays européens. D'aller en Europe et dire, voyons donc, on est dans un régime. Excuse-moi le terme, là. Mais t'as de l'air complotiste.
Oh, t'as l'air d'un
illuberlu. Mais il n'est pas le seul à utiliser le terme complotiste. Il y a des gens qui m'ont rapporté, qui sont intéressés à voter pour le PQ, qui aimaient bien PSPP et qui disent, là, sa nouvelle affaire sur les frères musulmans qui n'arrêtent pas de faire de l'entrisme partout. Moi, je trouve que c'est un enjeu important. L'entrisme religieux, je pense que ça existe.
Ben oui.
Mais la manière qu'il l'apporte puis qu'il donne l'impression là, que c'est une espèce de peste là, qu'il y a dans toutes les écoles du Québec puis dans toutes... C'est comme le dosage, le problème. Il est presque sur le bon picot. C'est juste qu'il met comme une tasse de sucre de trop dans son gâteau. Là. Ouais, puis là, ça fait patate.
Exactement.
Mais, tu sais.
Le gâteau est trop riche, là. Puis là, t'en manges une coupe de bouchée. Puis tu dis, ah, finalement, ce gâteau-là, je le laisse là.
Mais quand même, je reviens à ces chiffres de popularité. 44% des gens qui l'aiment, il est plus populaire que son parti encore.
Oui.
OK. Donc, ça, récemment, c'est bon signe. Je sens beaucoup de gens qui se mettent à douter parce qu'ils l'aimaient beaucoup au début, trouvaient que c'est un vent de fraîcheur, etc. Il y a des petits drapeaux jaunes qui se lèvent pour le chef du PQ. Le TGV, c'est un autre bon exemple. Au lieu de dire, écoutez, il y a des problèmes, il y a trop de terres agricoles qui sont affectées, je pense que ça coûte trop cher, il faut revoir le tracé. Non, on n'en veut pas, c'est le train de l'unité canadienne. Il y a 70% du monde qui le veulent, le TGV.
Mais non, c'est ça.
C'est dose-toi.
Exactement. C'est d'aller chercher les bons combats. Félix qui nous écrit « Hey, moi, Mme Fréchette, je l'aime bien. Elle semble très fine et charismatique, mais malheureusement, elle est rattachée à un parti politique qui est la CAQ et je ne veux pas voter pour ce parti-là. » Mais sais-tu quoi? Si PSPP continue à être dans le complotisme...
Puis que Charles Milliard continue de ne pas nous dire ce qu'il veut faire du Québec.
Exactement. Il y a des votes par défaut qui vont s'en aller là.
Mais d'ailleurs, on jasait de ça tantôt avec Nathan puis Mathias. Est-ce que tu penses que les affiches de la CAQ vont mettre la chef beaucoup de l'avant?
Ben oui.
Le logo de la CAQ, les couleurs? La chef. Moi, d'après moi, là, les affiches blanches et turquoises de François Legault, pas sûr que... Tu sais, j'ai l'impression qu'on va essayer de se brander autrement. Là.
C'est clair. Puis hey, écoute, on va mettre le logo de la CAQ en tout
petit caractère en bas de l'affiche.
Ah oh, oui, oui, parce que là, t'es...
Équipe Christine Fréchette!
Ben oui, les gens sont écœurés de la CAQ, mais malgré l'écœurement de la CAQ, Christine Fréchette est la deuxième politicienne la plus populaire au Québec.
Puis les gens n'ont pas fini de se faire une opinion. Ça aussi, ça va faire en sorte qu'on va avoir un été préélectoral puis une élection enlevante et enlevant.
Ben oui.
Parce qu'il y a encore une grande partie des gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Moi, je l'entends beaucoup dans les sondages qui ferait le meilleur premier ministre, là. La deuxième position était occupée par je ne sais pas.
Ben, c'est ça. Puis, Christine Fréchette, je crois, va avoir la bonne stratégie politique de ne pas trop brasser, d'être positive. Puis, au Québec, autant tantôt, je disais, on était plus à gauche socialement, puis ces idées-là nous intéressent. Puis, quand les uluberlus de la droite se font aller, on s'éloigne de ça, puis on leur met des décotes à moins 38 puis à moins 31. Ouais. Ben, ça va être la même chose. On veut pas se chicaner. On veut pas d'une campagne électorale où tout le monde va se tirer le pompon. Fait qu'elle, si elle se présente, et je reprends tes paroles, comme l'adulte dans la pièce, à 50% des gens qui l'aiment, elle a des bonnes chances que ça marche.
Oui, puis c'est beaucoup de luttes à trois, des luttes à quatre dans plein de circonscriptions. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir des stratégies régionales très, très précises parce que chaque comté, avec quelques points, tu peux aller les chercher.
Je me rends compte, en 30 secondes, on a oublié de parler de quelque chose. On va pas bien pour le PLQ, René Verrette qui dit «
Ouais, ben,
j'ai
c'est
pas
bizarre.
L'énergie à 66 ans, y a-tu pas l'énergie parce que dans le Weber, il était en quatrième? »
Il a pris un gros coup de vieux depuis un mois.
Ouais.
Non, honnêtement, c'est un peu bizarre. Puis c'est sûr que des candidats comme ça qui se retirent, ben, ça laisse place à la spéculation. On se demande, est-ce que c'est à cause des sondages? Est-ce qu'il y a autre chose? On sait pas trop. Mais ça me fait penser qu'il y a la malédiction de Weber. Vous connaissez la malédiction de Weber?
Non, vas-y donc.
Élection partielle 2017, Geneviève Guilbeault, là, c'était pas le plan A hein, de la CAQ.
C'est vrai!
Il y avait un candidat qui s'était retiré.
Oui.
Et le PLQ, aussi oui. avait un candidat qui s'était retiré. Donc, il y avait deux plans B qui s'affrontaient. Puis, vous voyez, Geneviève Guilbeault, le plan B, finalement, je veux dire, ben ça a été une figure de la CAQ importante.
Geneviève, t'es avec sa bédaine enceinte
oui,
en campagne électorale.
Enceinte en plus. Ben oui. Donc, peut-être que les libéraux vont trouver encore une meilleure candidature. Qui sait. Puis, ça va assez bien, les candidatures libérales, faut
ouais,
le
vraiment.
Dire. Mais c'est vraiment pas le genre de choses que tu veux, des candidats qui se retirent.
Non.
Ça,
encore quatre candidats présentés dans le coin de l'Estrie, là, aujourd'hui. Antonine Yacarini, on se parle demain.
À demain.
Pour le dernier. Non, c'est pas... ben, ça va être le dernier caucus de la
avec
saison
toi.
Avec moi.
Oui.
Tu vas en faire un jeudi avec Gab Marino et Mathias.
Qui sera mon dernier vraiment de la
ben
saison.
Ben oui, parce que moi, j'ai possible. Pris un petit congé jeudi, vendredi.
Inacceptable.
Ça
travaille pas. Ça
pas
hey.
Ah, je travaille jamais.
Pong le bing.
Ben voyons, la radio, c'est un loisir. Merci, Anton. On fait une courte pause. Mathias, est-ce qu'on a des nouveautés sur ce qui se passe à Montréal avant de faire la pause?
Oui, juste revenir. Là, c'est une chasse à l'homme présentement qu'il y a dans le secteur de Montréal, là, à Côte-des-Neiges, le secteur près d'autoroute Descarie, à la hauteur de l'avenue de Coutray, qui est bouclé présentement par les policiers. On a même mis une alerte d'urgence qui a été émise par la police de Montréal sur les téléphones cellulaires des personnes se trouvant à Montréal, leur demandant d'éviter le secteur en raison de la présence d'un suspect armé et dangereux. Un policier qui a été blessé par balle sur place. Donc, l'opération du service de police de la ville de Montréal continue.
On revient avec un bloc d'informations et également, je vais vous parler de cette nouveauté à la Ville de Québec pour vous aviser rapidement des travaux. Très, très belle nouveauté. Je me suis inscrit aujourd'hui. Ça a pris même pas deux minutes.